Agnès Poisson, vous êtes présidente du conseil presbytéral de l'Église réformée de Pau, qui est membre de l'Église protestante unie de France. Alors, nous fêtons cette année les 500 ans de la réforme de Luther. Au temple de Pau de la rue Servièse, jusqu'à la fin juin, vous proposez une exposition. Alors, quelle va être cette exposition? Que proposez-vous dans cette exposition?
Eh bien, à l'occasion de cette année Luther, où on fête les 95 thèses qui ont été placardées par Luther sur la chapelle de l'église de Wittenberg, nous fêtons les 500 ans de ces 95 thèses qui ont révolutionné la pensée de l'époque, et ceci jusqu'à nos jours. Et cette exposition contient 20 panneaux qui racontent d'abord l'expérience initiale de Luther, qui était un moine, Augustin, et qui s'est redressé contre le commerce des indulgences avec le pape Léon X, qui vendait des indulgences contre une libération rapide du purgatoire. Donc il a trouvé que ce n'était pas comme ça qu'on pouvait concevoir la foi, puisque la foi vous est donnée par des relations directement avec Dieu, et c'est la grâce qui Dieu nous aime comme des enfants, et ce n'est pas en payant qu'on va pouvoir avoir une gratification. Donc il a essayé de négocier avec le pape, c'était un peu un lanceur d'alerte, et malheureusement il n'a pas été entendu, et moi je pense que si le pape François avait été à l'époque, le schisme n'aurait pas eu lieu. Et ce qui est amusant, c'est que le pape François est allé en Suède, il y a un an, en octobre 2016, fêter l'année Luther. Et j'avoue que c'est quand même assez extraordinaire comme geste de œcuménique, de confiance et de reconnaissance. Donc cette année, nous allons avoir beaucoup d'événements qui vont permettre de rappeler cette actualité. Alors nous avons commencé par un concert d'orgue. Puis maintenant, nous avons cette exposition dans le temple. Il y a 20 panneaux qui parlent de l'expérience initiale de Luther, comment on est arrivé là, les conséquences immédiates, la filiation dans le temps et ce qui se passe maintenant, l'apport avec les relations avec les autres églises. Et durant cette année, nous allons avoir d'autres manifestations. Entre autres,
on va peut-être revenir, Inès, sur cette exposition, parce que c'est vrai que c'est l'événement le plus proche, donc c'est celui auquel nous invitons nos auditeurs, parce que on présente ces panneaux, c'est une manière de mieux connaître le protestantisme. Là, pour les, s'adresse à qui cette exposition?
Ça s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, c'est une exposition historique en fait, culturelle, peut-être religieuse si on veut voir le côté religieux, mais aussi on peut voir uniquement un apport culturel, puisque cette pensée de Luther qui a permis de s'adresser directement à Dieu, de parler dans sa langue maternelle à Dieu, de prier dans sa langue, de chanter dans sa langue, ça a été quand même une transformation des relations entre l'homme et le ciel.
Oui, on ne se rend pas compte qu'à l'époque, c'était vraiment archi-révolutionnaire par rapport à ce qu'était l'Église
parce que
de l'époque.
Le clergé parlait en latin, chantait en latin, il était interdit de lire la Bible, les Bibles étaient cachées, elles étaient en latin, donc il fallait avoir quand même une culture pour pouvoir aborder les textes bibliques. Tandis que maintenant, avec cet apport de Luther, les gens ont pu lire le texte dans leur langue, chanter dans leur langue, prier dans leur langue. Et donc, pour moi, c'est quand même une révolution. Et du reste, l'Église catholique en a quand même évolué aussi à partir de ce moment-là.
Tout à fait,
ça lui a donné une ouverture et une autre façon de penser, c'est sûr.
Donc cette exposition, les gens qui vont s'y rendre, comme vous dites, ça les intéressera sur le plan religieux, mais également sur le plan historique, parce que Luther, malgré tout, c'est un personnage historique.
Hier, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Ah oui, c'est du prosélytisme ». Ce n'est pas du prosélytisme, c'est uniquement culturel. La personne, de toute façon, la personne qui lit ça s'enrichit. Ça, pas forcément qu'elle va changer sa façon de penser et de ses relations avec Dieu, mais elle s'enrichit culturellement.
Luther fait partie des gens qui ont façonné le monde, qu'on le veuille ou non.
Tout à fait, parce que
tout comme les papes catholiques.
Tout à fait. Quand même, tout le nord de l'Europe est luthérien, et il a donc influencé Calvin, puisque Calvin, quelques années après, est allé écouter un sermon à Strasbourg. Il l'a entendu en allemand, et il s'est dit, mais on va traduire la Bible en français. Et ici, il a été traduit par Arnaud de Salet a traduit les psaumes, les psaumes, le psautier de Salette.
Arnaud de Salette, donc une famille qui est locale,
voilà,
une famille bernaise.
Tout à fait. Voilà.
Inès, cette exposition, donc, elle a lieu jusqu'à tous les samedis, je
Alors,
crois, de juin.
Tous les samedis de juin. Ensuite, elle partira au musée Jeanne d'Albret à Orthez.
D'accord.
Elle reviendra à Pau. Nous ouvrirons peut-être de nouveau le temple le samedi après-midi. Et elle sera pendant les journées du patrimoine, bien sûr.
Journées du patrimoine qui sont de mémoire un des premiers week-ends de septembre.
Oui, voilà. Pas le premier, non, plutôt le troisième, quelque chose comme ça.
D'accord. Alors, justement, cette année Luther, Inès Poisson, vous qui êtes donc présidente du conseil presbytéral, vous êtes en première ligne pour l'année Luther et ses 500 ans. Il y a d'autres projets de manifestation, justement, même sans
en entrer dans les détails, voilà. En accord avec la mairie, nous allons, et les archives, l'usine des tramways, il va y avoir une exposition des livres du temps de Luther en Béarn. Nous allons avoir la première Bible, des psautiers, les premiers écrits qui ont été imprimés dans le Béarn. Monsieur Charrère va faire une conférence sur les livres et l'écriture en Béarn. Nous allons avoir des concerts, des chorales, puisque Luther a traduit les psaumes en allemand et les musiciens ont mis de la musique dessus, donc on va avoir des chorales. On va avoir, alors pour nous c'est assez intéressant, parce que nous allons avoir un évêque qui s'appelle un inspecteur ecclésiastique luthérien. Alors je vous explique en deux mots.
Inspecteur ecclésiastique luthérien.
En deux mots, nous sommes calvinistes. Les protestants de France sont calvinistes. Les protestants allemands sont luthériens. Et récemment, il y a eu une association, nous nous appelons maintenant l'Église protestante unie. C'est-à-dire que nous nous sommes unis avec les luthériens. Mais nous n'avons pas tout à fait la même façon de pratiquer le culte. Alors nous avons invité ce qui s'appelle officiellement un inspecteur ecclésiastique, mais en fait ça correspond à l'évêque de France pour les luthériens, qui va venir faire une conférence et qui va nous faire un culte à la façon luthérienne. Parce qu'en fait, Luther n'avait pas l'intention de quitter l'Église catholique. Il a posé des questions à l'Église catholique, qu'il ne l'a pas reçue. Mais alors du coup, ils ont gardé quand même des traditions catholiques, et entre autres, des habits sacerdotaux, le signe de croix, que nous ne faisons pas en souvenir des souffrances au moment de la révocation de l'édit de Nantes, où on forçait les protestants, pour dire qu'ils étaient catholiques, à faire le signe de croix. Donc nous ne faisons pas le signe de croix en France. Mais les protestants allemands n'ont pas souffert de cette révocation de l'édit de Nantes. Donc eux, ils ont gardé des signes catholiques. Donc je vous dis d'abord cette hiérarchie, puisqu'il y a un inspecteur qui est comme un évêque, le vêtement sacerdotal, le signe de croix, des bougies, beaucoup de bougies. Enfin, je pense que ça va être très intéressant pour nous de voir comment va se dérouler un...
Alors, il vient d'où, lui ?
Alors, il vient de Paris.
De Paris.
C'est l'évêque de luthérien.
D'accord, parce qu'il y a des luthériens. Oui,
il y a des luthériens
en France.
Il faut savoir qu'ils sont en Alsace, puisque c'est près de l'Allemagne.
D'accord.
Il y a des luthériens à Paris, parce qu'il y a quand même des Allemands à Paris. Et puis, il y a quelques petites disséminations en France. Mais ce n'est pas la majorité, c'est évident.
D'accord.
Mais pour nous, culturellement, ça va être très intéressant de voir comment a évolué le culte catholique au culte luthérien et du culte luthérien au culte réformé.
Inès Poisson, on arrive au terme de cette émission, donc merci pour toutes ces précisions passionnantes, vraiment passionnantes. Moi, je vous écoute la bouche ouverte, alors que je suis censée vous poser des questions. Les horaires, je crois que c'est le samedi, de 15h à 18h.
C'est exact.
Jusqu'à la fin juin.
Jusqu'à
donc,
la fin juin.
Tous les samedis du mois de juin. Voilà, au temple de la rue Servièse, c'est ouvert, c'est pas du prosélytisme, c'est une exposition culturelle.
Exposition gratuite.
Après,
gratuite.
Gratuite, voilà. Après, bon, s'il y en a qui ont envie de se convertir, c'est leur problème.
Ben ça, c'est leur problème, mais on ne cherche pas à convertir, on cherche à informer.
Voilà. Et tous ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur l'Église réformée de Pau, vous pouvez aller sur le site internet www.eglise-reformee-de-pau.org. Merci Inès Poisson.
Je vous remercie de m'avoir reçue.